Mercredi 10 avril 2024, chers auditeurs du studio Kalangou, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information Fantachamsou à la présentation. À la une de ce journal, insalubrité à Niamey après la célébration hier de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane, les rues de la ville sont encore jonchées de détritus, les avis des citoyens dans un instant. Le mois de Shawwal après celui du Ramadan comporte aussi ses bienfaits et quelques bénédictions pour les musulmans, y compris un autre type de jeûne. Plus de précisions dans ce journal. La migration a un apport inestimable dans le développement des États en Afrique, un sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la partie magazine de cette édition. La communauté musulmane du Niger a célébré hier la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Après cette fête, l'on constate certaines artères ou rues de Niamey qui sont jonchées de détritus. Cette insalubrité est due aux jeunes qui ont déplumé la volaille dans les différentes ruelles de la ville. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la propriété. Écoutons quelques citoyens qui réagissent. Ce matin, ils sont au micro de Rafia Abdoulaye Mossi.
Même si c'est ta maison, tu fais ton commerce, si tu finis, tu dois balayer. C'est la même chose avec la place de la mairie. Si on te donne une place pour faire du commerce, tu finis de vendre. Donc le bon sens, c'est de balayer après usage.
Ce qu'ils font, ce n'est pas du tout normal. Nous-mêmes, nous voulons qu'on trouve une solution, mais nous ne pouvons rien. Quand on t'octroie une place, il faut la nettoyer pour demain, pour ne pas qu'on te chasse.
Ils doivent vraiment assainir les lieux pour que la ville reste propre. Si on te prête un endroit pour exercer ton commerce, après ton activité, tu dois rendre ce lieu salubre comme tu l'as trouvé pour le bien de tous. Car l'insalubrité est l'un des freins du développement.
Après le mois de Ramadan avec ses multiples bénédictions pour les musulmans ayant observé le jeûne, le mois de Shawwal est arrivé. Dans ce mois musulman également, il y a un autre type de jeûne. Plus de précisions avec Salissou Garba, recteur de la mosquée de vendredi, Ousmane Ben Affan de Difa. Il est au micro de Mani Moussa.
Tout celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan et qui l'accompagne avec les 6 jours du mois de Shawwal, Dieu va le récompenser avec une récompense équivalente à un an de jeûne. En islam, toute bonne action est multipliée par 10. Donc le jeûne du mois de Ramadan multiplié par 10 est égal à 10 mois, plus les 6 jours du jeûne multipliés par 10. Ça donne 70 jours. Cela donne un an. Les 6 jours de jeûne sont vraiment une bénédiction. Il faut les faire après le mois de Ramadan pour avoir la récompense. Et si vous observez seulement le mois de Ramadan, vous aurez votre récompense. Mais malheureusement, il y a des moments où Satan tente de te décourager pour ne pas observer les 6 jours. Mais il faut s'armer de foi. Une dernière chose, vous n'êtes pas obligé d'aligner les 6 jours. On peut faire un jour, on se repose et on continue après. Ou les faire successivement, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de les faire dans ce moment.
Dans le département de Madawa, la commune rurale de Azorori est confrontée à un problème de distribution d'eau depuis une semaine. Le forage qui alimente la commune est tombé en panne. La population, par ces temps de forte chaleur, est dans l'expectative. Maman Maïdobo, l'ancien maire, explique au micro de Hamza Nomo.
Nous avons des petits châteaux d'eau très défectueux et fissureux qui n'arrivent pas à alimenter assez la population en eau. On s'est débrouillé avec l'appui de la direction régionale pour trouver un financement qui va nous permettre de construire un grand château d'eau de 5 mètres cubes qui peut couvrir les deux villages, Azarour nomade et Azarour sédentaire. On a eu le château, mais malheureusement, comme c'est une pompe hybride multifonctionnelle qu'on a installée, le technicien pompiste m'a expliqué que les câbles qui viennent avec la pompe sont de mauvaise qualité. Donc j'ai dit d'arrêter les travaux et de continuer avec le groupe électrogène pour alimenter la population en eau. C'est un problème d'eau, mais il y a des forages aussi pour permettre aux gens
d'avoir. Et à propos de ce même sujet, dans l'une de nos précédentes éditions, nous avions parlé du problème d'eau à Tirozirine qui pousse les jeunes à l'exode. Le 4 avril dernier, le préfet a convoqué une réunion d'urgence qui a regroupé les autorités communales, les chefs de village, la société civile et les différents chefs de quartier sur la question. Boukari Riba, préfet de Tirozirine, est au micro de Ahmed Filan.
Le
problème est là depuis le début du mois de Ramadan. L'eau est insuffisante dans la ville. C'est pourquoi on s'est réunis pour trouver une solution. On a constaté que la canalisation est vétuste. Et en plus, beaucoup de gens ont fait leur branchement sur la même installation. On ne peut pas supporter la charge. Raison pour laquelle on est confronté à ce problème d'eau. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans cette ressource. Nous savons que la Sonichar a fait de son mieux. Les bornes de la Sonichar, c'est pour refroidir leur usine, pour mieux fonctionner et donner de l'électricité partout. Je demande seulement à la population de patienter. Après la souffrance, le bonheur. Cette situation va passer. Au Niger, c'est presque le même problème pendant les grandes chaleurs. En plus, nous sommes dans une zone rocheuse. C'est des endroits très chauds. Nous faisons de notre mieux pour solutionner le problème.
Et toujours dans la région d'Agadez, depuis la fermeture de la Cominac, compagnie minière d'Akuta en 2021, les organisations de la société civile d'Arlita suivent avec attention la réalisation des engagements pris. 3 ans après, que faut-il retenir pour la population locale? Ramar Elatoufé est le secrétaire général de la coordination départementale des organisations de la société civile d'Arlita. Il est au micro de Gunguma Mandantani.
Ça fait 3 ans que la commune a fermé ses portes. Nous, en tant que jeunes, nous n'avons rien eu comme acquis par rapport à cela, puisque nous nous sommes oubliés. C'est ce qui va nous amener très prochainement à faire un écrit sous forme de plaidoyer pour pouvoir interpeller qui de droit. Aujourd'hui, après la fermeture de commune, on plus de 50 ans d'exploitation. C'est pourquoi nous avons dit on va aller rencontrer qui de droit et lui poser cette question. Je pense que ce n'est pas encore tard. Et récemment, nous avons eu à visiter la commune qui sont en train de faire leur remanagement. On peut réfléchir à chercher des activités et les transformer en acquis pour que les gens puissent s'en sortir. Il est important de donner des terrains et de mettre les moyens nécessaires pour que les gens puissent travailler la terre. Nous avons les terrains et nous avons les bras valides. Plus de 60% de la population dans l'île, c'est des jeunes. Donc je pense que si les jeunes peuvent avoir les moyens nécessaires pour travailler la terre, on peut toutefois s'autosuffire alimentaire. Dans notre écrit qu'on aura à faire, on va rappeler cela. Est-ce qu'il y a un don? Et s'il y a un don, qu'en est-il? Et on va voir clairement ce qui se passe.
Les violences basées sur le genre ou VBG est un fait au Niger et leur non-dénonciation auprès des autorités est un handicap pour leur éradication. Le département de Boboy dans la région de Dosso connaît ces faits et leur non-dénonciation. Il est alors essentiel de sensibiliser et de lutter contre ces pratiques, selon la directrice départementale de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme de Boboy. Madame Sani Salamatou indique que ces violences touchent spécifiquement les femmes et les jeunes filles. Elle est au micro de Oumu Oumaru.
Le problème qu'on rencontre, c'est surtout la non-dénonciation. Ils pensent que c'est une honte, surtout en cas de viol. Et vous savez, les viols, là, c'est dans la famille. Généralement, c'est les parents qui font ça. Ils disent pour l'honneur de la famille, ils ne dénoncent pas. Surtout les châtiments corporels là et autres. Vous savez, entre une femme et un mari, elle ne peut pas dénoncer. Elle voit que vraiment, c'est une honte, quoi. Sinon, nous, on fait quand même l'accompagnement, la sensibilisation. Les types de violences les plus fréquents ici à Berne. Il y a la violence physique où on inflige à une femme ou bien à une fille des châtiments corporels, des gifles, des coups et blessures, tout ça là. Il y a encore la violence psychologique à travers les insultes, les stigmatisations.
Dans la commune d'Agadez, entre le mois de février et celui de mars 2024, plus de 10 cas de viol et plusieurs détournements de mineurs ont été enregistrés au niveau du service social de la commune. Ces chiffres mettent en lumière le danger que courent les petites filles et garçons si des dispositions tardent à être prises. Fatima Al-Husseini est agente de la protection sociale de la mairie d'Agadez. Elle est au micro de Anissé Karim.
Entre février et mars, c'est un seul garçon, tout le reste c'est des filles. Maintenant, les violences physiques, la plupart c'est des mariés, des violences conjugales. Du moment que les viols, les gens considèrent ça comme un tabou, ils ne peuvent pas dénoncer. Et surtout, quand tu as la mère, il veut dénoncer les maris, il dit le contraire, il ne veut pas qu'il soit dénoncé quoi. C'est vraiment une situation très délicate, les cas de viol. Moins de 18 ans, tous c'est des mineurs. On a même l'habitude de voir des récidivistes. Quelqu'un, il viole, il est arrêté, après quelques années, il reprend la même chose. Même s'il n'est pas dénoncé, vous les cachez. Il va aller quelque part faire la même chose qu'il a l'habitude de faire. Donc si on continue de dénoncer, ça va un peu réduire. Et c'est la collaboration avec les parents qui sont réticents, qui pensent que tous les quartiers sauront que la fille d'un tel a été violée. C'est pour ça qu'ils cachent alors qu'ils ne voient pas les conséquences. La fille peut tomber enceinte, elle peut être affectée par des maladies sexuellement transmissibles. Nous lançons un appel à dénoncer, de ne pas cacher les agresseurs, de ne pas les laisser à la merci de la nature pour continuer leur bêtise.
La commune urbaine d'Arlita bénéficie d'un projet dénommé Avenir 3, mis en œuvre par un consortium d'ONG sur financement de l'OIM. Ce projet a pour but de renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre la population et les migrants dans la commune d'Arlita. Le coordonnateur du projet, Ismaël Boto, explique au micro de Gunguma Mandantani.
Le projet est structuré en trois axes. Le premier axe, la mise en place des groupes de discussion au niveau des différents quartiers de la commune urbaine d'Arlita. L'appui aux organisations de la société civile qui vont mener des actions de sensibilisation dans le cadre de la cohésion sociale au niveau des différents quartiers d'Arlita. L'appui aux jeunes pour des activités génératrices de revenus. C'est en fait la suite de différents projets qui ont été exécutés et mis en œuvre dans la commune urbaine d'Arlita pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble au niveau des populations autochtones et les migrants qui s'installent souvent, qui viennent, qui passent au niveau de la commune urbaine d'Arlita et qui ont des relations très étroites dans la population. Il y a les besoins de cohésion pour qu'il n'y ait pas de conflits qui peuvent surgir entre elles.
Et place à la partie magazine de cette édition, le développement des États africains ne se pose pas uniquement sur l'aide au développement ou à l'apport des partenaires techniques et financiers. Il y a aussi l'apport inestimable de la migration qui est souvent occulté, suivant ce reportage d'Alassane Abdou.
Le manque d'emploi et la recherche du bien-être sont les facteurs qui favorisent la migration. Ce phénomène est loin d'être une menace comme le décrivent certaines personnes. Les migrants participent activement au développement des pays d'origine comme ceux d'accueil. Arman Ousmane, secrétaire général des ressortissants nigériens à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
Nous, les Nigériens qui sont à Bobo-Dioulasso, surtout au Burkina Faso, chaque année, on fait une grande réunion au Nigeria. Par exemple, pour cette année, ce sera en janvier de 6 jusqu'au 20. Donc, en partant, chaque association a une somme qui va amener de différents pays qu'il est pour le développement du village. À la fin de compte, tout 600 millions de francs CFA. Et l'association de Yoruba a pu donner un don de 2 millions pour soutenir les déplacés.
Les actions que mènent les migrants dans les pays d'accueil ou d'origine favorisent le développement de l'Afrique, explique Kaba Moussa, migrant de la Guinée-Conakry.
Il y a des millionnaires guinéens au Burkina Faso ici. On ne peut pas parler en termes de milliards, mais ici, il y a des gens qui ont construit des étages au Burkina Faso ici, qui ont des entreprises qui marchent très bien. Et ces personnes-là, quand on cause avec eux, ils vont dire qu'ils ont quitté la Guinée, passé par la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils sont venus au Burkina. Et la plupart, ce sont des grands commerçants. Des grands entrepreneurs, on en connaît. Des gens qui sont dans le bâtiment, il y en a. Des grands professeurs d'université qui ont migré, qui sont aujourd'hui des professeurs agréés, travaillent ici au Burkina Faso. Donc ça veut dire que déjà, les gens, ils sont sortis avec un niveau. Et ils ont pu vraiment s'installer, travailler. Moi, par exemple, qui vous parle là. Moi, je suis directeur d'une compagnie de théâtre à Ouagadougou. J'ai fait ma formation au Burkina Faso. Je gère une compagnie de théâtre, je suis metteur en scène.
La participation des migrants dans le développement est visible aujourd'hui au Burkina Faso. Le pays profite à travers les taxes et impôts, nous explique Gebré Larba Emmanuel du ministère des Affaires étrangères.
Je peux dire que, tout comme les citoyens burkinabés, les migrants contribuent aussi au développement, tout comme les citoyens burkinabés. Ils interviennent dans le domaine de l'enseignement, ils interviennent dans le domaine de la santé, d'autres ont des cliniques, ce sont des burkinabés, ils soignent d'abord, et après tout, ils soignent des nationaux d'autres pays. Et au niveau aussi du commerce, ils sont présents, et même au niveau de l'éducation aussi, ils sont présents. Donc on peut dire qu'ils contribuent parce qu'à quelque part, ils payent les impôts et les taxes, et ça ne fait que profiter au pays.
Si pour certains pays, la migration est un phénomène à combattre, pour d'autres, elle est un moyen de renforcer le développement à la base et l'échange d'expériences entre populations.
Le reportage a rendu au studio par Ismaël Adjibou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les journaux en langue nationale. Et à partir de 18h15, suivez le forum en français avec pour thème « Comment lutter contre l'abattage clandestin des animaux dans la ville de Niamey » dans une présentation de Rafika Attaher.